Pascal Imbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de Wavestone. On va parler avec vous de vos résultats annuels 2020-2021 qui viennent d'être publiés. On avait eu l'occasion de se parler en début d'année. Ce qu'on aimerait bien sûr savoir, est-ce que vous avez publié aujourd'hui, c'est si depuis le début d'année, on a eu quand même une certaine reprise avant de reparler du bilan 2020.
Oui, on a une reprise et je pense que ça peut rendre optimiste, ça peut rendre d'autant plus optimiste que souvent Wavestone est un petit peu en amont du cycle. Et donc, nous voyons que nos clients, qui sont plutôt des grandes entreprises, commencent à se projeter sur l'après, Covid-19, l'après-crise, ils recommencent à investir, ils recommencent à faire des projets à long terme. Et donc, effectivement, c'est bon signe, à la fois pour l'activité de Wavestone, mais plus globalement pour la reprise de l'économie.
Si on revient donc sur cet exercice 2020-2021 forcément particulier, qu'est-ce que vous en retenez, vous, d'abord, sur cette année, quand vous en dressez le bilan?
Alors, j'en retiens d'abord une situation exceptionnelle, mais j'imagine, Didier, que tous les chefs d'entreprise que vous rencontrez doivent vous dire ça. Objectivement, moi, depuis 30 ans que Wavestone existe, je n'avais jamais vécu ça. Vous savez que le conseil est une activité qui est une activité assez cyclique, qui a tendance à amplifier les hauts et les bas. Et là, effectivement, on a eu affaire à quelque chose qu'on n'avait jamais connu, même au moment de l'éclatement de la bulle Internet, même au moment de la crise financière, une déflagration d'un très fort niveau. Et pour autant, finalement, le bilan que je tire au bout de 12 mois de crise, c'est un bilan plutôt satisfaisant, avec une très bonne résilience de Wavestone. Résilience est devenu le terme à la mode, mais effectivement, un chiffre d'affaires qu'on a réussi finalement à maintenir pratiquement au niveau de l'exercice précédent. La décroissance du chiffre d'affaires a été de seulement 1% sur l'exercice. Et en ce qui concerne la rentabilité, une rentabilité qui s'est établie à 12,8% sur le plan de la marge opérationnelle courante, soit seulement 0,4 points en dessous de la marge opérationnelle courante que nous avons publié au cours de l'exercice précédent. Donc finalement, on aurait signé dès demain en début d'exercice pour savoir qu'on allait réussir à négocier la crise dans ces conditions.
Alors, il y a eu tout de même des recrutements que vous signalez. C'est vrai que avant la crise, hein, pour ceux qui suivent Wavestone, eh ben, ensemble, on parlait peut-être de cette pression, effectivement, puisque les salariés, ceux qui effectivement qui étaient dans cette activité avaient le choix. Il y avait peut-être un turnover peut-être plus important. On a eu cette crise. Vous avez donc recruté. Quelle est justement la stratégie dans ce domaine?
Oui, alors bien sûr, la crise a provoqué en quelques semaines une inversion complète des tendances. La difficulté jusqu'au mois d'avril 2020, c'était d'être capable de recruter, d'arriver à limiter le turnover. Et je dirais que le business, s'il n'était pas très facile pour autant, ce n'était pas le point le plus délicat de notre croissance. Ça s'est inversé. Sur l'ensemble de l'exercice, un turnover très bas, à 11% contre 14% pour l'exercice précédent et 15% en rythme normatif. Et nous avons été obligés d'arrêter les recrutements pendant à peu près 6 mois, en attendant que nous arrivions à relancer la machine commerciale. On a repris les recrutements depuis l'automne 2020, et dans un marché qui est devenu un marché beaucoup plus détendu, beaucoup plus facile, ce qui nous a permis de reprendre le recrutement de manière progressive, mais sans devoir y consacrer des moyens importants. Nous avons recruté 450 personnes sur l'ensemble de l'exercice. Et maintenant, nous sommes en train de revenir pratiquement à notre rythme d'avant-crise. Nous prévoyons pour l'exercice à venir de recruter environ 800 personnes, avec des tensions qui commencent à réapparaître un petit peu sur le marché de l'emploi, mais rien à voir avec ce que nous connaissions jusqu'en 2019. Donc sans doute encore une période relativement propice au fait de faire grandir nos équipes et de recruter des jeunes talents, à la fois en nombre et en qualité.
Alors, vous avez aussi indiqué une remontée du taux d'activité, ce qui est bien sûr positif, tout en indiquant qu'il y avait une pression sur effectivement les prix de vente. Donc ça, l'environnement de ce point de vue-là va perdurer, on imagine.
Oui, la pression sur les prix a été extrêmement forte très rapidement de la part de nos clients, parce que finalement nous étions tous confrontés nous-mêmes, mais également nos clients, à une difficulté, à une tension extrême et une difficulté sur nos coûts. Donc nos clients nous ont demandé de faire des efforts. Nous avons accompagné ces efforts parce que nous considérons qu'en période de crise, ce qui est absolument clé, c'est de remonter le taux d'utilisation de nos équipes, quitte à faire quelques concessions sur le plan des prix. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu une décroissance de nos prix qui a atteint 4% sur l'exercice, mais qui s'est stabilisée plutôt sur la fin de l'exercice. Et en contrepartie de cet effort sur les prix, nous avons été en mesure de faire remonter assez rapidement nos taux d'utilisation, avec un taux d'utilisation qui était tombé à 63% au premier trimestre de l'exercice, qui est revenu à 75%, c'est-à-dire même plus haut qu'avant l'éclatement de la crise Covid-19. 75%, c'est le niveau d'utilisation optimum de nos équipes. Donc un niveau que nous avons atteint sur la fin de l'exercice et que nous sommes assez confiants, sur notre capacité à le maintenir dans le courant de l'exercice qui vient. Sur le plan des prix, ça va être une autre paire de manches. La pression reste forte. Je l'ai évoqué, donc nos prix se sont stabilisés sur la fin de l'exercice, mais nous restons modestes dans nos ambitions sur le plan des prix. Et donc notre idée sur l'exercice qui vient, c'est d'arriver à conforter cette stabilisation, peut-être faire une légère reprise en fin d'exercice 2021-2022, mais encore une fois avec beaucoup de prudence. Je dirais que à court terme, notre priorité, c'est plutôt de maintenir un bon taux d'activité, de commencer à réalimenter la croissance du cabinet. Et puis pour les prix, on va accompagner le mouvement au fur et à mesure que nos clients vont retrouver plus de couleurs et vont retrouver plus de sérénité sur leur profitabilité.
Alors, un sujet, effectivement, bon, vous avez fait des économies comme d'autres entreprises dans la période, mais peut-être que vous êtes parmi les premières entreprises à donner des indications précises sur le fameux monde d'après, hein, dont on nous parle, puisque vous avez dit clairement, vous dites dans votre communiqué, vous allez diminuer vos surfaces de locaux parisiens. J'ai eu l'occasion d'aller au siège chez vous. C'est significatif et ça veut dire que ça, c'est une vraie décision stratégique pour vous. Ça veut dire une nouvelle organisation.
Ah oui, le Covid a bien sûr été riche en enseignements de tout genre, mais il y en a un qui est pour nous maintenant quasiment incontournable et qui va avoir des conséquences immédiates après la crise, c'est que nous pensons qu'il est illusoire de revenir à l'organisation du travail qui prévalait avant l'éclatement de la crise Covid-19. Et donc, nous avons lancé un projet qui s'appelle Smart Working at Wavestone, dans lequel nous allons essayer de repenser le travail de demain en entreprise. Nous voulons être un champ d'expérimentation et nous voulons être, je dirais, en avance sur nos clients, sur finalement la manière optimum d'organiser le travail dans une entreprise qui est une activité tertiaire. L'idée de Smart Working at Wavestone, c'est effectivement de laisser une place beaucoup plus grande au télétravail, au travail à distance, aux espaces de coworking également, de permettre, le cas échéant, à une partie de nos équipes de travailler dans des lieux qui sont distants des sites de Wavestone, avec deux objectifs. Un objectif qui est finalement d'être le plus attractif possible vis-à-vis des talents que nous cherchons à recruter et à fidéliser au sein de Wavestone. Et puis un deuxième objectif qui est d'essayer de travailler plus efficacement, tout en améliorant la qualité de vie de nos collaborateurs. Donc, travailler plus efficacement, ça veut dire développer les collaborations entre tous les sites de Wavestone. Il y a des expertises qui peuvent être différentes d'un site ou d'un pays à un autre. Et nous nous sommes rendus compte dans la période de Covid que c'était extrêmement facile de coopérer à distance, que c'était également extrêmement facile de travailler avec des clients, même si ils ne sont pas situés à proximité immédiate des sites à partir desquels nous les servons. Et apporter également une meilleure qualité de vie en diminuant la charge liée au transport pour nos consultants, en diminuant les déplacements sur des sites clients et accessoirement par ce biais en optimisant l'empreinte carbone du cabinet. Je le disais, Smart Working at Wavestone, ça va être une expérimentation et donc nous voulons pas trop réfléchir sur le papier. Ce que nous voulons, c'est finalement que les équipes elles-mêmes inventent les modes de travail les plus efficaces. Et donc pendant un an, par période de 3 mois, nous allons enchaîner des expérimentations avant petit à petit de faire émerger les meilleures pratiques et de définir effectivement les nouveaux modes de travail au sein de Wavestone. D'ores et déjà, nous avons pris la décision de diminuer la surface de nos locaux parce que nous savons que de toute façon, la part de travail à distance va être beaucoup plus importante demain. Et donc concrètement, on a pris la décision de diminuer de 40% la surface des locaux que nous occupons.
C'est effectivement significatif. Pour terminer sur les perspectives, vous avez donné un certain nombre d'indications effectivement en termes d'activité. Vous dites aussi que après une première croissance externe aux États-Unis, vous allez continuer aux États-Unis, bon, sans vous interdire la France, bien entendu. Est-ce qu'il y a des priorités dans ce domaine?
Oui, aux États-Unis, donc nous sommes en train de nous développer. Nous y sommes présents depuis quelques années, mais nous avons accéléré à partir de 2019 en faisant une première acquisition. On a réalisé une nouvelle acquisition dans les toutes dernières semaines. On cherche avant tout à prendre une position un peu plus importante sur des sujets digitaux, cybersécurité, IT, donc auprès de grandes entreprises américaines. Nous commençons à avoir une jolie proposition de valeur à déployer aux États-Unis. Nous avons des jolis noms parmi nos clients et nous allons en avoir encore plus grâce à la dernière acquisition que nous avons réalisée qui travaille vraiment pour de très belles entreprises, de très beaux logos aux États-Unis. Et pour l'instant, notre idée, c'est de continuer à faire des build-up ciblés aux États-Unis, mais toujours en restant très proche de la technologie. C'est notre première la première image que nous voulons développer vis-à-vis de nos clients américains. Nous étendrons vers des activités plus tournées vers le conseil en management dans un second temps.
Bien, merci beaucoup Pascal Imbert d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, donc après la publication de vos résultats.
Merci à vous.